L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Je ne sais pas si vous avez envie de voyager. J'imagine que oui, on a toujours envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Il y a une personne qui l'a fait beaucoup, qui s'appelle Frédéric Lopez, qui a tenu cette émission pendant 13 ans, qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de recevoir Frédéric pour comprendre justement ce qu'il avait appris de tous ces peuples qu'il avait pu aller voir. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Donc, on ne se connaît pas.
On ne se connaît pas.
On vient d'en parler à l'instant. On ne se connaît pas vraiment. Mais en même temps, j'avais très envie de te recevoir alors, de manière un peu étrange, mais parce qu'on se connaît pas, donc les valeurs que je ressens en fait, et la puissance des émissions et de tout ce que tu as pu créer. Et en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est ton retour d'expérience sur les différents peuples que tu as pu aller voir, parce qu'en réalité, on a tendance à penser que la manière dont on fait société, nous, c'est-à-dire via la science, est largement supérieure. Et moi, quand je regarde, par exemple, quand on détruit l'Amazonie, bien sûr, ça me fait de la peine pour les arbres et je pense très fort à eux. Mais en même temps, moi, ce qui me fait encore plus de peine, c'est qu'on est en train de détruire un savoir millénaire de gens qui habitent dans ces forêts et qui ont vraiment un savoir très puissant, en réalité. Et toi, tu as eu cette chance de pouvoir aller observer, finalement, et vivre avec, sur des périodes plus ou moins limitées, mais enfin, différents peuples. Donc, j'aimerais comprendre ce que tu as... Peut-être déjà, la première question, c'était l'expérience qui t'a le plus marqué dans tout ça. C'est toujours une question difficile, hein, mais...
C'est compliqué de dire laquelle m'a le plus marqué, parce que c'est jamais pour les mêmes choses. En fait, elles m'ont toutes marqué, je me souviens de toutes.
Bien
et
sûr.
100% des souvenirs sont liés à une charge émotionnelle. J'ai beaucoup de charge émotionnelle. Alors, il y a un souvenir qui donne beaucoup d'espoir, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'idéaliser les traditions et d'imaginer que nous, on n'a rien compris. Ce serait un peu caricatural. Et c'est vrai qu'on pourrait même débattre sur ce que tu disais, sur j'ai la sensation que les sociétés occidentales se sentent un peu supérieures dans leur manière de faire société. Mmh. On pourrait presque donner des exemples de ça pour voir pourquoi tu as cette sensation, cette forme d'arrogance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé Rendez-vous en terrain inconnu, on allait voir les peuples autochtones, ce que les Nations Unies appellent la mémoire de l'humanité. C'est des gens isolés qui sont pas dans notre système. Et quand j'ai commencé, il y a 13 ans, ils étaient 5% de la population mondiale. Et aujourd'hui, ils sont 3%. Donc à ce titre-là, c'est important pour moi de leur donner la parole, de les écouter, de les entendre. Et c'est vrai que ce sont des minorités, la plupart d'entre eux, dans leur propre pays, donc qui sont souvent méprisés parce qu'ils incarnent le passé. Et donc, ce sont des pays qui ont envie d'être dans le concert des nations et qui ont l'impression d'être modernes. Ça, c'est le truc qui passe partout. Et du coup, la plupart des gens qu'on est allés voir sont méprisés, parfois même harcelés. Et donc voilà. Et donc, c'est quelque chose déjà de très, très, très émouvant pour mon équipe et pour moi, d'avoir leur confiance. Parce que finalement, les gens de l'extérieur, ils étaient jamais très bien intentionnés. Et nous, on avait juste envie d'enregistrer leurs paroles. Et parmi toutes les rencontres, il y en a une qui m'a spécialement marqué. On est en Éthiopie, au nord de l'Éthiopie, en Abyssinie, 4000 mètres d'altitude. On est chez Sissé, qui est agriculteur. Et lui, comme tout le monde dans la vallée, alors que c'est interdit officiellement dans le pays, mais tout le monde dans la vallée, il a marié sa fille dans un mariage arrangé lorsqu'elle avait 12 ans. Mmh. Et quand il a 43 ans, il apprend à lire et à écrire. Et le seul petit livre qu'il a à la maison, c'est Les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et du coup, il dit lui-même, ce sont ses propres mots, j'ai enterré ma fille vivante. Alors moi, je pense à tous les gens qui nous entourent et qui reconnaissent pas leurs erreurs. Lui reconnaît son erreur, il est dur avec lui. Et il décide de sauver sa fille suivante, Yaka Banej, qui a 16 ans quand on la rencontre. Et il veut qu'elle aille à l'école. Et c'est là que les ennuis commencent pour lui. Parce qu'en fait, il est contre les traditions. Donc en fait, il est la honte de sa famille, ses frères, de ses amis. Il est exclu, rejeté. Et on sait que pour un être humain, ce qu'il y a de pire, c'est le rejet. Et puis surtout, il a des ennemis. C'est la famille adverse, si j'ose dire. C'est-à-dire ceux à qui il a promis sa fille, parce qu'il a reçu des cadeaux. Et malgré tout ça, il va continuer. Nous, on le voit à la sortie de l'église. Personne n'écoute vraiment. Il explique que c'est pas bien de marier son enfant si jeune, etc. Et puis, on a l'habitude de retourner voir les gens qu'on a filmés 4 ou 5 ans plus tard pour leur montrer les films, voir s'ils se reconnaissent. Et cette fois, Adriana Carambeau a voulu absolument y aller. Donc elle y était avec mon équipe. Et puis à un moment donné, elle lui pose la question suivante. Elle lui dit, mais si c'est... Bon, nous, on sait ce que tu nous as apporté, et on va parler de ça ensemble. Mais nous, notre rencontre, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et là, vraiment très naturellement, sans mettre d'effet, etc., j'essaie de le dire aussi rapidement que lui. Il dit, en fait, avant de vous connaître, je savais pas que j'étais courageux. Et il a réussi à éradiquer le fléau. Et moi, je savais pas qu'en portant notre regard sur quelqu'un, on pouvait lui donner de la force, on peut changer la vie des gens juste en leur portant de l'attention. C'est ça que ça m'a appris. Donc cette rencontre, elle est puissante parce que c'est l'arbre au milieu du torrent. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur des traditions, le mariage arrangé à l'âge de 12 ans. D'ailleurs, tout ce qui se passe là-bas, ça tombe sous le coup de la loi ici. Parce que c'est un enlèvement quand il s'agit de la fille, parce qu'elle sait pas, c'est le jour même, on lui dit c'est la fête. Ah ben c'est ton mariage. Ça veut dire quoi? C'est qu'on t'arrache à ta famille. Donc c'est un enlèvement. Et puis on peut parler de viol. Et voilà, et on peut même parler de pédophilie. Donc ça fait beaucoup. Et donc c'est des traumas hallucinants et de voir que ça s'est perpétué pour des raisons de tradition. Donc c'est important parce qu'il manquerait plus qu'on s'imagine que mon discours c'est été pendant toutes ces années de dire encore une fois ils sont formidables, le mythe du bon sauvage et nous on n'a rien compris. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Bien sûr.
Et donc voilà, donc c'est un très très bon souvenir parce que cet homme avait un sourire extrêmement lumineux, il me donnait beaucoup d'espoir et donc même dans cette espèce de noirceur, il me donne envie de... Il me donne foi en l'humanité.
Mais alors, clairement, c'est évident que je ne vais pas être dans le mythe du bon sauvage parce que c'est assez... c'est encore... Mais pour moi,
je sais que tu l'es pas.
Non. Mais c'est un peu ce que je décrivais. Pour moi, c'est quand je disais qu'on se sentait un peu supérieur et qu'on regardait ça un peu avec distance, c'est un peu à ça que je pensais. C'est-à-dire, c'est vraiment ce mythe du bon sauvage. Alors qu'en réalité, et bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Et l'idée, c'est certainement pas de jeter toute notre culture, parce que ça nous a apporté énormément de choses, en particulier sur l'espérance de vie, enfin sur
l'éducation,
les droits, enfin bon, bref, il y a tellement de choses que ce serait compliqué de toutes les lister. Et en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de remarquer que là, on est en train de vivre. J'ai l'association un retour du sacré ou un retour du chamanisme d'une certaine manière avec des retours vers des rites ancestraux qui peuvent être liés aux plantes ou autres. Et on voit ça arriver en Occident, en fait, pour des gens qui sont en pleine recherche de sens, quête de sens. Est-ce que toi, cette émission, c'était aussi une quête de sens personnelle quand t'as décidé de le faire et qu'est-ce que tu y as trouvé, en fait?
Alors, c'est la bonne question. Greg, tu posais la bonne question. Donc, je me suis posé la question après coup, en fait, parce que ça me paraissait naturel à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'avais pas pris l'avion dans ma vie avant l'âge de 20 ans. J'avais une soif de voyage, de découverte, de voir le monde. J'ai une passion jusqu'à mon dernier souffle pour les êtres humains, pour les rencontres. Et au fond, on est parti avec mon équipe comme ça, rencontrer ces peuples autochtones parce qu'on sentait les peuples autochtones, parce qu'on pensait qu'il fallait consigner leurs paroles, encore une fois. Et puis,